Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
L'expérience inoubliable de Thomas. L'expérience inoubliable de Thomas. Dans notre culture, aujourd'hui en 2020, même les incroyants connaissent l'histoire de Thomas. Ou plutôt connaissent une certaine phrase. Thomas est cet apôtre du Seigneur qui n'a pas cru en la résurrection de Jésus-Christ avec cette fameuse phrase « Je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Combien quand on évangélise, on l'entend cette phrase. Pour tous ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, il dit « Moi, le jour où je verrai, je croirai ». Et la Bible va affirmer effectivement que Jésus va mourir. Il va être enterré, que le troisième jour, il va ressusciter. Et un ange est apparu et il a roulé la pierre, pas pour que Jésus sorte, parce qu'il avait il était déjà sorti, mais pour permettre aux femmes qui sont venues ce matin-là voir le corps, le tombeau à l'intérieur qui était vide, et constater ainsi que Jésus était bien ressuscité. Et on voit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8, qu'il y a plus de 500 personnes qui ont vu Jésus après sa résurrection. Thomas est réputé effectivement comme étant le douteur de tous les temps. Oui, on va voir effectivement que Thomas a douté, mais laissez-moi vous montrer ce matin, si vous me le permettez, un premier aspect de sa vie qui est tout à fait à son honneur et qui va le distinguer bien positivement par rapport aux autres croyants. Et mon premier point ce matin, c'est l'amour profond de Jésus. Pour comprendre comment l'amour profond de Thomas envers Jésus, pardon. Et pour comprendre comment Thomas aimait Jésus profondément, il nous faut revenir à l'histoire de Lazare. Vous savez, Lazare, le frère de Marthe et Marie qui est mort, qui était malade et ensuite qui était mort. Et la Bible nous dit dans Jean 11, verset 1, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Nous sommes là à Béthanie où vivent Marthe, Marie et Lazare, proches de Jérusalem. Et ils étaient, ces trois personnes, très proches de Jésus. Et quand ils passaient par Jérusalem, ils avaient souvent l'habitude de dormir souvent là-bas. Et voilà que ce proche ami de Jésus, Lazare, va être malade. Malade au point où il va mourir. Et on voit là où se situe Jésus. Jésus s'en alla de nouveau dans Jean 10, verset 40, au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Donc on sait que Jésus, là, à ce moment-là, était au-delà du Jourdain, et dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y a eu une distance à peu près de 10 heures de marche, selon les commentateurs bibliques. Et Marthe et Marie savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir ce frère malade, puisqu'ils vont même envoyer un messager chercher Jésus pour l'avertir que Lazare est malade. Ils vont dire dans Jean 11, 3, 4, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Trouvez pas que c'est bon quand même d'avoir dans son réseau d'amis une personne comme Jésus? Dans son téléphone portable, il y avait quand même Jésus. Le moindre problème, Jésus vient. Mon frère est malade, intervient. Si vous êtes proche ami comme Jésus de Marthe, Marie et Lazare, et que on vous appelle pour vous dire Lazare est vraiment malade, est-ce que tu peux venir? Ok, d'accord, j'arrive dans 2 jours. Mais pourquoi tu attends 2 jours, Jésus? C'est pour que Lazare meure. Jean 11, 6 nous dit que lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Cela nous montre que Dieu veut faire naître son projet dans nos vies. Par moments, il peut arriver que tu traverses des temps où Dieu tarde, Dieu patiente, le temps que ton projet, tes ambitions, tes désirs meurent, que tu arrêtes de résister, que tu meurs à tes fausses idées, à tes projections erronées sur ta vie. Parce que Jésus ne voulait pas juste guérir Lazare, mais il voulait le ressusciter. Et donc, il va dire dans Jean 11, versets 7 et 8, et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée, les disciples lui disent, mais Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Les disciples vont dire, alors que Jésus s'apprête à venir voir Lazare, ils disent, mais Jésus, tu es fou d'aller là-bas. Tu sais très bien que tu es un homme pourchassé. Et si tu vas là-bas, on va te tuer, en fait. Et donc, dans le verset 11 du même chapitre, après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. En fait, Jésus est en train de leur dire, à ce moment-là, Lazare est mort. Jésus sait exactement à quel moment Lazare venait de mourir. Et donc, il dit à ses disciples, maintenant on peut y aller, c'est bon. Jésus nous connaît parfaitement. Il sait exactement là-haut de son ciel ce que tu as vécu cette semaine, ce qui s'est passé lorsque personne ne t'a vu. Et il va poursuivre en disant, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. On peut comprendre là que les disciples, ils ne comprennent pas trop. Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'aimerais parler de Thomas. Où au verset 16, voici ce qu'il va dire. Thomas va dire, allons aussi afin de mourir avec lui. Oui, allons-y. Et allons tous mourir avec lui. Jésus va aller en Judée. Et Thomas est, peut-être on peut le dire, un peu pessimiste. Oui, il est quasiment sûr, effectivement, que les Juifs vont trouver Jésus. Et comme les disciples seront avec Jésus, ils vont capturer en même temps les disciples et Jésus. Et ils nous tueront. On va tous mourir. Alors, allons avec lui et mourons avec lui. Mais ne le jugeons pas trop tôt, puisque il y a une différence entre Thomas, sur ce coup-là, et les autres disciples. Puisqu'on voit dans Jean 11, verset 8, les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » En gros, les disciples vont dire à Jésus, « Jésus, n'y va pas, parce que toi, tu vas mourir. » Ça, c'était leur perspective, c'était leur crainte, leur angoisse, leur peur. Et Thomas, il va dire complètement l'inverse, « Allons-y, mourons avec lui. » Pourquoi Thomas a une réaction différente des autres? Parce que Thomas aimait tellement Jésus que pour lui, il valait mieux être mort avec Jésus que vivant sans Jésus. Il ne pouvait pas imaginer être sans la présence de Jésus. Tellement il veut être proche de lui qu'il préfère aller à Jérusalem avec lui et mourir avec lui que de rester de l'autre côté du Jourdain et être séparé de Jésus, qui lui irait à Jérusalem pour mourir tout seul. Et je crois que plusieurs ce matin, vous êtes là, Dieu vous amène de temps en temps dans des luttes, dans des épreuves, dans des combats, et quand la pression monte, il y a comme un dégonflage spirituel. Ou quand c'est le moment d'assumer que vous êtes chrétien, que vous pratiquez votre foi activement, vous préférez garder votre réputation plutôt que d'afficher la couleur de votre sauveur, quitte à vous faire certes critiquer, moquer, railler, voire même persécuter. Vous préférez donc rester vivant sans Jésus plutôt que mourir, d'être critiqué, battu, persécuté avec Jésus. C'est ça qui est en train de se passer ici. Et on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à vivre tout ce que Jésus a compris, a prévu pour nos vies, y compris les temps difficiles, parce que toute chose, bonne ou mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Thomas était un homme qui avait un profond amour pour Jésus, qui voulait à tout prix être avec lui. Et la question que je te pose de la part de Dieu ce matin, c'est, as-tu ce même amour envers Jésus-Christ ce matin ? As-tu la même passion pour Jésus? Ma prière, et j'espère que vous êtes avec moi ce matin, je préfère être avec lui mort que séparé de lui vivant. Un homme qui aime Jésus, un homme qui veut chercher sa présence, qui a sa poursuite, qui ne se lasse pas de toujours regarder là où Jésus est pour y être avec lui. Il est impossible, mes amis, d'aimer sans sacrifice. Impossible de servir Dieu sans renoncement volontaire. Dès la Genèse, Dieu commande à Adam et Ève de renoncer aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève doivent prouver leur amour pour lui en renonçant à certains biens pour un bien estimé plus grand, la communion avec mon Seigneur. Pour Thomas, même le fait de rester en vie n'était pas plus grand que la présence de Jésus. Il n'y a rien sur la terre de plus grand, de plus élevé que la présence de Dieu. Amen. Et Thomas était prêt à renoncer à son existence pour être dans les bras de Jésus. Nous disons, nous chantons, nous proclamons semaine après semaine que nous aimons Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu t'a déjà appelé à sacrifier pour lui? Parce que si tu ne sacrifies jamais rien pour Dieu, est-ce que tu l'aimes vraiment? Regarde comment un parent, il y a plusieurs parents ce matin, comment vous êtes capable, par amour pour vos enfants, de vous sacrifier, de serrer, peut-être des fois vous achetez pas des vêtements pour les donner à vos enfants, des fois vous économisez pendant 2 ans pour offrir une colo d'une semaine à votre enfant, parce que vous voulez investir dans sa vie, parce que vous faites des sacrifices par amour. Et c'est exactement pareil spirituellement. Si nous nous disons chrétiens, si nous nous disons vivre pour Dieu, si nous aimons Jésus de tout notre cœur, et que nous réalisons tout ce qu'il a fait pour nous par amour, en envoyant Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nos péchés, qui est mort pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle, la question est, est-ce que tu peux me dire ce matin quelque chose que tu sacrifies pour Dieu? Dans la dernière semaine, quel domaine as-tu sacrifié pour Dieu? As-tu renoncé? Qu'est-ce que servir et suivre Christ te coûte? Quel prix payes-tu au quotidien pour suivre Jésus? Quel péché abandonnes-tu régulièrement pour honorer Jésus et par amour pour lui? Quelle décision régulière pour Jésus et qui va au-delà de ta moyenne habituelle dans d'autres domaines prends-tu pour le servir et pour l'honorer? Tout ce que nous sommes appelés à faire, nous sommes appelés à faire par amour, par reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour nous. Et Dieu va toujours valoriser l'attitude de cœur avec laquelle cette chose-là est faite. Regardons un deuxième exemple de Thomas. Dans Jean 14, versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. Jésus est en train de parler à ses disciples, et il leur annonce la croix, il leur dit, je vais vous quitter, je vais aller vous préparer une place dans le ciel, et je viendrai vous chercher. Si vous êtes Thomas, imaginez un instant avec ce qu'on vient de dire, comment réagissez-vous? Non! Je veux être avec toi! Je ne peux pas supporter un instant sans toi! Ne pars pas! Est-ce que je me sens loin de Jésus? Est-ce que j'ai un profond désir, comme Thomas, de toujours venir, revenir à lui? Toujours l'aimer plus, toujours lui redemander pardon pour mes péchés? Est-ce que nous nous détestons quand nous déplaisons au Seigneur? Est-ce qu'il y a un cri qui monte dans ton cœur régulièrement où tu dis, Seigneur, plus jamais ça, je veux ton aide, je veux ton secours, je veux ton soutien, je veux ta grâce dans ma vie, je veux que tu sois toujours avec moi, je ne veux jamais que tu me quittes, j'ai désespérément besoin de toi. Ça, c'était Thomas. Et il va dire au verset 5 de Jean 14, Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Tu es en train de dire, dit Thomas, que tu vas partir, mais où est-ce que tu vas partir? Et comment est-ce qu'on peut aller avec toi? Thomas, il tient quelqu'un, il le tient. Pour ceux qui aiment le foot, c'est comme vous faites un marquage à la culotte, vous ne lâchez pas la personne. Il y a des Marseillais peut-être ici dans ce lieu. C'est bien parce qu'à Toulouse c'est le rugby, donc je peux en profiter ce matin. Et en fait il est dans une perspective physique, pas du tout dans une perspective éternelle, une perspective céleste. Et voici ce que Jésus va lui répondre, ce verset que nous connaissons par cœur. Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Thomas ne comprenait pas que Jésus était en train d'évoquer une perspective divine, où l'endroit d'en parler Jésus était vers le Père, le chemin du salut que lui offrait par Jésus. Et Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus va annoncer qu'il reviendra. Mais Thomas, même l'idée d'un tout petit instant, même en sachant que Jésus va revenir, Il n'arrive pas à supporter d'être séparé, même un micro-instant, de son Sauveur. Voilà pourquoi Thomas ne peut pas croire après que, tellement il est déçu, il est triste, il ne peut pas croire même s'il a entendu que Jésus est ressuscité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Jésus. Comme nous pouvons avoir un profond amour pour Jésus, et peut-être qu'il peut y avoir des zones dans nos vies, des domaines dans notre vie, où nous avons du mal à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Et nous nous mettons peut-être à être découragés parce que nous avons du mal à avoir la perspective de Dieu. Alors que se passe-t-il, et c'est mon deuxième point ce matin, quand Jésus va ressusciter? Alors comme je l'ai lu en introduction dans 1 Corinthiens 15, oui, il va apparaître à plus de 500 personnes, mais j'aimerais voir qu'est-ce qui se passe pendant l'absence de Thomas. Dans Jean 20, 19, la Bible nous dit le soir de ce jour, donc Jésus meurt le vendredi, il ressuscite le dimanche. Le soir de ce jour, donc dimanche soir, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Vous vous rappelez un petit peu les disciples qui avaient peur d'aller à Jérusalem parce qu'ils avaient peur d'être tués. Et Thomas, on l'a vu, on l'a lu, il aime tellement Jésus que lui, il va dire l'inverse. Mais non, allons-y. Et les autres, ils vont dire, oula, fais attention. Et finalement, ils vont y aller. Et on sait que quand on lit Jean 11, c'est à la fin de la résurrection de Jésus pour Lazare que Jésus effectivement va être arrêté littéralement. Jésus va être capturé et tué. Et maintenant les disciples vont se dire, maintenant c'est à nous, maintenant on est tout seul et maintenant ils vont venir nous chercher, maintenant c'est nous les prochains. Alors on comprend pourquoi au verset 19, il est dit, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples, étant fermées. Ils se sont certainement dit que les autres allaient croire qu'on a volé le corps. Ils ont eu peur à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils étaient en train de trembler littéralement, complètement désespérés. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, alors que tu vis une situation où tu es au bord du désespoir, où peut-être ton cœur est enfermé à double tour, où tu es dans tes problèmes, dans tes soucis, dans tes inquiétudes, où tu es peut-être nostalgique du passé ce matin, et tu dis, mais pasteur, mais comment je vais faire avec ce qui vient de m'arriver, avec cette catastrophe qui prend place dans ma vie? C'est à ce moment-là que Jésus fait son entrée dans ta vie. Il se présente à toi et il veut te redonner de l'espoir. Vous avez le droit de dire amen ce matin. Il veut te redonner de la paix, redonner de la joie. Il veut te redonner sa présence à ses côtés. Ils pensaient certainement à ce moment-là, à leur prochaine mort. Ils n'étaient pas dans la foi là. Ce n'était pas la louange et l'adoration. Quelle grâce incomparable. Non, pas du tout là. Ils n'étaient pas du tout remplis d'espérance en leur Messie, mais complètement déçus de leur Sauveur qui venait de mourir. Alors comment est-ce que, alors que la porte est fermée, il n'y a aucune possibilité de rentrer, comment Jésus, qui le texte nous dit, il n'a pas ouvert la porte, comment est-il rentré? Le texte ne dit pas comment Jésus est rentré. Mais cela nous montre que ce matin, il y a peut-être une personne qui peut être dans des pensées de mort, des pensées de suicide, où tu te dis, ça y est, maintenant c'en est fichu, avec ce qui vient de m'arriver, c'en est terminé. Jésus, ce matin, est capable de faire encore l'initiative dans ta vie. Ce matin, je m'adresse à une personne dont le cœur est fermé, où il n'y a plus rien qui passe spirituellement parlant. Mais peu importe si un pasteur ne peut pas passer dans la porte de ton cœur, peu importe si une membre de ta famille qui aime Jésus ne peut plus rentrer, j'aimerais te dire, peu importe tout cela, Jésus-Christ, le Jésus que je connais, est capable de transpercer la porte de ton cœur fermée à clé pour se révéler encore à toi. Comme les disciples ce matin, plusieurs, vous êtes là, dans la peur. Vous avez constamment des peurs, cauchemars, peur de perdre mon enfant, peur de pas tenir bon avec Jésus, peur que mon mari me quitte, que ma femme me quitte, peur de pas avoir assez d'argent. Jésus vient encore à toi ce matin, et il se révèle à toi, il te montre tout l'amour qu'il a pour toi. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Jésus leur donne sa paix et son amour qu'il remplace toute peur. Il va leur dire dans Jean 20:20, et quand il dit cela, il leur montrera, il va leur dire que la paix, je ne l'ai pas noté dans le PowerPoint, il va leur dire que la paix soit avec vous. Il va leur dire, comme on dit à l'époque, shalom, c'est ce qu'on disait habituellement. Et dans Jean 20:20, il va dire, quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Jésus montre les gros trous qui étaient probablement là sur ses poignets et un trou sur le côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Je crois que l'un des effets, l'un des fruits directs d'une personne qui rencontre Jésus, c'est qu'il devient la personne la plus heureuse du monde. Il n'y a pas de meilleure joie que tu pourras trouver sur la terre que d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Mais il y avait quelqu'un qui manquait dans cette pièce. Ils ont vécu une merveilleuse expérience, mais il y avait quelqu'un qui manquait. C'était qui ? Le fameux Thomas. La solitude de Thomas. Jean 20:24 nous dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Tous les disciples dont son ont cette pièce, Jésus apparaît, leur montre qui il est, il se révèle à eux, mais Thomas n'y est pas. Pourquoi ? Le texte ne le dit pas avec précision, mais prenons conscience de ce qui se passe à ce moment-là de l'histoire, pour comprendre la démarche de Thomas. La chose dont Thomas avait le plus peur venait de se réaliser. Il était séparé d'avec Jésus. Il vient de voir son Seigneur cruellement crucifié, mourir. Thomas est effondré. Il est parti sans moi. Je suis maintenant seul, sans mon Seigneur et vivant. Thomas ne savait pas quoi répondre à cela non plus. Quand vous êtes déprimé, quand vous êtes triste, la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est d'être avec plein de gens. On veut être là, tranquille, tout seul. On veut voir personne, on veut s'isoler, éteindre toutes les lumières, on va dormir, on se met devant la télé, on dort devant, on est là en dépression, on s'enferme, les fenêtres sont fermées. Mais heureusement que Thomas avait des amis. Voilà pourquoi j'encourage ce matin particulièrement les jeunes et les ados, avec toutes ces tentations qu'on peut voir dans ce monde, à créer, à développer des amitiés chrétiennes. Parce que quand tu seras dans la galère, dans une tentation avec le monde, si tu as personne à qui tu peux appeler, un gars, une fille qui va te dire « Oh, 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 viens, viens, on va prier avec toi. » Tu n'as plus la force de venir dans ce lieu, ben c'est ton pote qui va venir vers toi. Proverbe 18, verset 24, nous dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Les autres disciples, dans Jean 20:25, lui dirent, ils vont voir Thomas, « Nous avons vu le Seigneur !» Amen. Mais il leur dit, c'est Thomas qui parle, « Oh !» Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Au moins, c'est clair. Il n'était pas là, mais une fois qu'il est apparu, le premier réflexe des disciples, ça a été d'aller voir direct Thomas, et de dire, mais Thomas, ça y est, je t'assure, on l'a vu, c'est extraordinaire, il est ressuscité. Et Thomas va dire, mais arrêtez les gars, si je ne mets pas ma main dans son côté, dans ses plaies, je croirai rien. En gros, Thomas, là, il est en train de dire, arrêtez les gars, je crois pas. Il est dans une réaction un petit peu de colère, de déception face au dire des disciples. Thomas, il est en train de leur dire, mais vous êtes fous les gars ou quoi? Mais arrêtez, vous délirez, c'était moi le plus amoureux de Jésus que vous. Alors vous n'allez pas me faire croire qu'il s'est présenté d'abord à vous qu'à moi. Hein. Oh, oh. Vous êtes trompés les gars, laissez-moi tranquille. Si vous voulez que je croie, alors qu'il vienne ici et qu'il me le prouve. C'est compliqué quand même de convaincre une personne d'une vérité qui ne veut pas croire. Voilà pourquoi ça prend l'œuvre du Saint-Esprit. Aucun homme, aucune femme ne peut fabriquer cette conviction dans un cœur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Alors terminons avec l'espoir retrouvé. Jean 20, verset 26, nous dit « 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. » Alors que Thomas était tout seul dans son coin, en train de déprimer, ces 8 jours ont dû paraître une éternité. 8 jours quand on est déprimé, quand on n'a pas de vision pour le lendemain, c'est énorme. On est sans réponse. Ça nous paraît tellement long. Et le Seigneur va lui offrir une autre opportunité pour lui permettre de réaliser la véracité de la résurrection. Oui, le futur apôtre a raté une première opportunité, mais il va vivre un moment fort. Et il peut nous arriver, nous aussi, de rater des rendez-vous divins, où Jésus vient et se manifeste puissamment, et on est dégoûté parce qu'on s'est dit, ouais, je vais attendre que ça se passe, et puis je verrai bien. Et quand on voit ce qui s'est passé, on se dit, mince, j'aurais dû être là. Mais dans sa grâce, Dieu va permettre qu'il y ait de nouvelles occasions ce matin. Des nouvelles occasions de vivre une victoire. Peut-être que pour certains, vous revenez dans ce lieu, vous venez dans ce lieu, ça fait longtemps que vous ne fréquentez pas une église, mais, et vous êtes là et vous dites, mais j'ai raté tellement d'occasions de vivre un temps avec Dieu. Mais peu importe, ce matin, tu vas saisir la victoire que Dieu veut te donner. Tu vas saisir les grâces, les bénédictions que Dieu veut t'accorder ce matin. Alors ce n'est pas le moment de regretter toutes les années ou les mois perdus à tergiverser, mais à prendre cette occasion du maintenant de Dieu, du aujourd'hui de Dieu, et de dire « Je veux m'engager avec toi, Seigneur. Je veux vivre une libération dans mon cœur. J'ai assez perdu de temps. Maintenant, Seigneur, c'est mon temps, c'est mon jour. Je veux prendre le rendez-vous divin que tu as préparé d'avance pour moi. » Et Jésus vint. Les portes étaient, j'ai envie de dire, encore fermées. Et il se présente au milieu d'eux et il dit « Shalom, la paix soit avec vous. » On a l'impression de revivre la première scène. Où c'est exactement dans le même contexte. Jésus, on va dire, traverse les portes et apparaît en tant que ressuscité. Et les disciples avaient encore, certainement, on le voit, encore une part d'incrédulité en eux car ils ont bien vu Jésus ressuscité, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont touché, et une semaine encore après, ils sont là, encore enfermés, apeurés, à double tour, comme si c'était rien passé, comme s'ils n'étaient pas vivants. Finalement, on a l'impression qu'ils ne croient pas plus que Thomas, même s'ils l'ont vu. Est-ce que Dieu est encore capable, même s'il a, il m'a déjà montré sa fidélité, de venir me rassurer peut-être face à mon avenir incertain? Oui, Dieu est capable. Est-ce que Dieu est encore capable, même si j'ai déjà expérimenté, de venir rallumer la flamme qui s'est éteinte dans ma vie, peut-être envers mon mari, ma famille? Oui, Dieu est capable. Dieu est-il encore ce matin capable de transformer ma tristesse en joie et de calmer toutes mes craintes? Moi qui ai déjà vécu plein d'expériences auparavant, laisse-moi te dire de la part de Dieu, oui, on le dit ensemble, Dieu est capable. Oui, Thomas, on le met souvent en tête des listes des champions de l'incrédulité. Il a douté, certes, mais ses disciples, ses collègues, ses amis ont aussi douté la première fois. Et donc quand Jésus va rentrer dans cette pièce à nouveau, où Thomas est dans cette pièce, où il va encore se manifester auprès de ses disciples. Et là c'est extraordinaire mes amis, parce qu'il va dire, c'est Jésus qui parle à Thomas et il va dire, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Là, c'est hallucinant ce qui se passe. Parce que Jésus savait exactement ce dont il avait besoin. Vous vous en souvenez quand Thomas, au bord de la, dans la déprime totale, il commence à râler en disant cette phrase. Il commence à dire, ouais, c'est ça, ouais. Si Jésus est vraiment vivant, alors que je puisse mettre vraiment mes mains dans ses mains, mettre la main dans son côté, etc., etc. Parce qu'il n'est pas vivant, c'est impossible. Et Jésus, il sait tout. Même quand tu es dans la dépression, même quand tu le critiques, même quand tu l'insultes, même quand tu es dans une colère intérieure, Jésus, il entend tout, en fait. Et ce qui est merveilleux avec mon Jésus, c'est même dans tes doutes les plus profonds, tu peux vivre les plus grandes révélations. Tu peux entendre Jésus venir à toi et te montrer que ce que tu avais dit en te disant c'est impossible, il est en train de s'abaisser à ton niveau. Il n'était pas obligé de le faire, Jésus. Il n'avait pas besoin de prouver qu'il était Dieu, qu'il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Dieu est Dieu et il n'avait pas besoin de montrer à quelqu'un qu'il était Dieu. On est d'accord avec ça ce matin. Mais il a accepté de s'abaisser à tes raisonnements. Il a accepté de s'abaisser à tes réflexions enfantines. Il a accepté de s'abaisser à ce que tu pensais de la situation. Et il s'est abaissé à ton niveau. Il est venu te rencontrer dans tes doutes, dans tes peines, dans tes soucis. Et ceux et celles ce matin qui veulent croire en cela vont vivre les libérations que Dieu avait prévues de vous accorder ce matin. Je m'en souviens, c'était lors d'un message ici à La Ciotat il y a 2-3 ans, et je crois qu'elle n'est pas parmi nous ce matin, et le titre de mon message c'était « Seigneur, purifie-moi ». Et à la fin de mon message, il y a une dame, elle vient me voir et elle me dit « Venez pasteur et tout, vous savez quoi, cette semaine, j'étais tellement dans le péché et que quand je suis arrivé ce matin, toute la nuit, j'ai pas arrêté de dire « Seigneur, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi ». Elle a pas arrêté de dire ça. Et moi, j'arrive ce matin, comme là ce matin, je dis le titre de mon message est celui-ci « Seigneur, purifie-moi ». Et quand vous avez dit ça, j'étais fatigué, j'ai dit, mais oh, Seigneur, tu m'as entendu. Seigneur, je disais ça dans ma fatigue, dans ma détresse, dans mon péché, et toi tu m'as entendu, Seigneur, tu l'as mis dans le cœur du pasteur. Jésus, dans nos incompréhensions, dans nos réflexions, il s'abaisse à notre niveau. Vous avez remarqué, des fois on parle comme si Dieu ne nous entendait pas. Mais malgré tout, Jésus nous entend. Et il vient, il s'abaisse. Ça s'appelle la grâce. Alors que je partais en vrille, alors que je n'avais pas fait les choses correctement, Dieu est venu. Et il s'est révélé à moi. Et il m'a béni d'une façon tellement anormale que tout d'un coup, ça m'a limite gêné. Quand on témoigne de l'amour de Jésus, souvent les gens vous posent la question, mais il y a plein de trucs à faire quand même. Qu'est-ce que je peux faire quand même pour croire en ton Dieu là? Non, mais cherche pas, c'est lui qui a fait quelque chose pour toi. Tout ce que tu vas essayer de faire, ça va être ridicule en fait. La grâce, c'est gênant. Est-ce que c'est ton témoignage ce matin pour certains? Ou tu n'as pas fait les choses comme tu aurais dû les faire. Tu as plutôt même fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et pourtant, tu te rends compte qu'à la finalité, tu as un résultat trop bien. Et au bout du compte, tu n'as rien fait pour. Ça s'appelle la grâce. La grâce, c'est que tu n'es plus en train de regarder à ce que tu as fait comme effort, car tu réalises que ce que tu as fait, c'est tellement rien en fait, si ce n'est le péché, pour libérer l'action de Dieu dans ta vie au travers de Jésus. Alors oui, Thomas s'est abaissé, Jésus s'est abaissé à la vie de Thomas, mais faisons attention quand on demande des signes à Dieu. Impossible et inimaginable. Parce que la Bible nous encourage non pas à être conduit par des signes, mais à être conduit par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux et celles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alors est-ce que Thomas met son doigt dans le côté de Jésus, le texte ne le dit pas. Est-ce que Thomas l'a fait ou est-ce qu'il était convaincu même sans devoir le faire? On ne sait pas, mais on connaît la fin. Où Thomas va dire, il lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Thomas a connu le doute, mais lorsque Jésus est venu à sa rencontre, il a pu le reconnaître comme son Seigneur et son Dieu. Jésus est venu là où Thomas se trouvait. Il est venu à sa rencontre et il l'a amené là où il voulait qu'il soit, dans le lieu de l'adoration. Et c'est exactement comme ça que Dieu travaille avec nous ce matin. Il vient nous chercher là où nous nous sommes arrêtés, dans nos déceptions, dans nos peurs, dans nos luttes, dans nos péchés, dans nos incrédulités, et il nous élève dans sa présence. Et il nous élève dans son admirable lumière, et il nous amène plus loin. C'est un Dieu plein de grâce, de miséricorde, d'amour à notre égard. Dans les moments, ce matin, où tu vis présentement les plus gros doutes, tes plus grosses épreuves, tu peux recevoir tes plus belles révélations. Tu peux t'écrier, quand tu es dans le creux, « Mon Seigneur et mon Dieu, tu es là, tu es avec moi, je l'avais oublié, et je reviens au cœur de l'adoration, au cœur de la louange. » Et au travers de la présence de Jésus, Jésus va les rendre capables de sortir de leur enfermement, de dépasser leur peur, de mourir pour lui. Puisque ces personnes-là, une fois qu'ils vont croire en ce Jésus ressuscité, ils vont partir dans le monde entier le proclamer. Et ils vont même accepter de mourir en martyr pour la cause du Christ ressuscité. Et je crois que c'est bien là notre appel. Ne pas rester enfermé dans nos craintes, dans nos maisons, dans nos églises, dans notre famille d'église, mais de proclamer à tous ceux et celles qui veulent l'entendre la bonne nouvelle du Christ ressuscité.